L'invité de la rédaction aujourd'hui, c'est Madame la maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes du Pays Fléchois. Bonjour Nadine Grelet-Certonnet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce début d'année, exercice traditionnel maintenant. On vous reçoit pour faire le bilan de l'année écoulée et puis aussi avoir les perspectives pour le cru qui s'ouvre, même s'il est un peu contraint par des événements sociopolitique, au moment où on parle, c'est une journée de mobilisation contre une réforme des retraites, on vous interrogera là-dessus. Et puis aussi, il y a la guerre en Europe, la Russie qui agresse l'Ukraine, et les répercussions des hausses des prix, l'inflation, etc., un contexte très lourd. Et je suis sûr que si vous faites le bilan de 2022, ce contexte-là va forcément revenir.
Avoir un impact.
Exactement.
Oui. Alors effectivement, bilan perspective, début de mandat 2020, peut-être quand même d'ores et déjà préciser ou indiquer que la ville de La Flèche, malgré ce contexte, conforte sa place de ville, de deuxième ville de la Sarthe, et une place forte dans le Sud-Sarthe, quand on voit effectivement, quand on constate les investissements importants, et on parlera de plus en détail tout à l'heure, à tous les niveaux, que ce soit en lien avec Cœur de Ville d'ailleurs, que ce soit sur le logement, la mobilité, l'économie, etc., où on a très concrètement des retours ou des investissements, des porteurs de projets qui viennent investir sur notre territoire fléchois. Donc, première chose, une embellie qui résiste malgré le contexte que vous avez décrit, qui effectivement a été un contexte très compliqué depuis ce début de mandat, contexte sanitaire, bien sûr, d'abord, avec une impossibilité à rencontrer la population, les associations, à avoir des échanges en présentiel. Alors, effectivement, on le sait, la vidéo a rendu beaucoup de services pour garder le contact, mais nous, élus, bien évidemment, et la population, c'est bien nous le dire, c'est pas notre ADN, et c'est bien sûr ce manque de contact qu'on a pu acter pendant des années. On en sort enfin, même si on croise toujours les doigts et qu'il faut rester toujours très très prudent, bien évidemment, on l'a annoncé lors des vœux à toute aux habitants de La Flèche et du Pays Fléchois, mais aussi en début d'année là, auprès de nos seniors qui sont venus au spectacle et autres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je salue aussi, c'est que la saison culturelle reprend, le sport reprend. Donc c'est ce que je voulais indiquer aussi, c'est qu'en 2022, malgré ce contexte, nous avons pu renouer avec tout ce qui fait le sel de notre vie en société. C'est bien sûr toutes ces belles manifestations hyper nombreuses sur le territoire fléchois, grâce aux associations culture, sport, mais aussi humanitaire, bien sûr, qui privilégient la rencontre, donc le lien social, et qui contribuent très fortement à notre qualité de vie. On ne le dit jamais assez et on les en remercie. Donc, renouer avec la vie en société, on a revu des sourires, bien sûr, réapparaître. Et puis, à peine sorti de cette crise sanitaire, vous l'avez dit, la guerre. La guerre aux portes de l'Europe, avec les conséquences que l'on connaît sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat, sur nos coûts de fonctionnement à nous, et bien évidemment s'agissant de nos énergies, chauffage, bâtiments publics, etc. On en a en bon nombre. Donc ça a été bien sûr un impact très lourd sur le plan budgétaire. Puisque, faut-il le redire, nous avons multiplié par pratiquement 7 nos factures de gaz et d'électricité. Donc c'est quelque chose, un exemple, la facture de gaz est passée de 200 000 euros à 1,2 million. Donc c'est voilà, très concrètement, voilà un petit peu ce sur quoi on a dû faire face. Et bien sûr, avec les inconnus derrière, la durée de cette guerre, la durée de cette inflation, Donc 2022, nous arrivons à boucler les budgets en faisant effectivement, en restreignant un peu certains coûts ou certains investissements. 2023 sera compliqué puisqu'on se prend l'impact de toutes ces consommations sur une année entière. Et puis, quid de 2024, 2025, voilà. Donc il y aura forcément des choses un petit peu compliquées derrière. Malgré tout, puisqu'on parle aussi de perspective, bien sûr, il s'agit dans le cadre d'un mandat où nous avons été élus par rapport à une programmation. Nous souhaitons tenir notre feuille de route. Et donc, sur les grands axes, maintenir la qualité de nos services publics. Et Dieu sait si on a vu, pendant ces années un peu compliquées et encore maintenant, l'intérêt de nos services publics au service des habitants. Les fluides, donc, bien sûr, pour pouvoir tenir notre route, là encore, il a fallu très vite réagir. Donc, tout le monde s'en est aperçu, les actions sur le chauffage sur les bâtiments. On a restreint les températures partout, dans les bureaux, mais aussi dans nos salles, dans nos salles d'activité. On a restreint l'éclairage public très rapidement. Il y avait aussi un volet environnemental évident là-dessus. Et d'ailleurs, c'est très globalement des retours plutôt positifs et en tout cas encourageants qu'on a eu de la part des Fléchois, même si on sait que les changements sont toujours un petit peu compliqués, c'est perturbateur, et il est vrai que ça génère tout de même quelques difficultés par-ci par-là, notamment aux sorties nocturnes pour la culture, pour le sport, etc.
Donc il y en a qui s'en sont plaints, Madame la maire ?
Alors, oui, et globalement, pas particulièrement un problème d'insécurité dans le sens où peur d'éventuelles agressions, etc. C'était pas du tout de cet ordre-là, c'était plutôt on voit pas, on pourra retourner à notre vélo, à notre voiture, etc. Et donc, plutôt une gêne, et puis et bien évidemment la peur, alors pour certaines personnes âgées aussi, de tomber, de se prendre un obstacle, etc. Ce qui est tout à fait normal. Donc ce qu'on a réexpliqué aux personnes de manière générale, et en passant effectivement par nos associations qui sont des vecteurs importants, c'est que nous continuons les investissements en matière de LED et sur les installations électriques de la ville. Et donc le LED permet de pouvoir... intervenir sur un lampadaire, sur une zone beaucoup plus restreinte. Actuellement, on est sur des installations traditionnelles, dans certains quartiers encore, même si on a commencé, il faut qu'on continue. Et donc, on privilégiera bien évidemment les équipements culturels, sportifs et puis éventuellement les commerces extérieurs et autres. Quand je dis extérieur, je pense à certains commerces qui sont sur des quartiers qui sont moins centraux et pour lesquels il y a eu aussi des demandes. Donc un très bon échange d'ailleurs avec les personnes qui nous sollicitaient, qui ont compris que c'était purement technique et que nous allions résoudre au coup par coup cette problématique, ces gênes-là pour l'hiver prochain, pour pouvoir intervenir. Non pas parce que quand on éteint, ça veut dire actuellement, ce sont des grosses armoires, je vous le fais schématiquement, des grosses armoires qui relient tout un quartier. Donc quand on éteint un lampadaire, on éteint tout. Quand on allume un lampadaire, on allume tout. Voilà. Et donc c'est l'histoire et c'est les installations qui veulent ça. Donc ça veut dire des investissements sur lesquels on va poursuivre. Mais on a entendu la gêne que ça procurait. Et donc ça fait partie de nos actions aussi à venir.
Donc ça est en cours. Des investissements qui auront un coût, mais qui seront rattrapés parce que vous évoquiez donc développement
durable. Par les économies d'énergie. Tout à fait, tout à fait. C'est le but. Et puisque vous parlez d'économie d'énergie, bien évidemment, une des premières choses qui a été réactivée aussi, c'est de remettre à jour un diagnostic de nos bâtiments publics, un diagnostic énergétique par un cabinet qui a pu faire apparaître que, effectivement, nombre de bâtiments est tel, mais ce sont les bâtiments relativement anciens, et on s'aperçoit maintenant qu'ils ont tous 30, 40 ans pour certains, et que, effectivement, l'isolation à ce moment-là n'était pas vraiment l'axe le plus important en matière de construction, mais ça c'est pareil, ça fait partie de notre évolution et de notre histoire. Ce diagnostic a fait apparaître des bâtiments assez énergivores. Donc après, c'est réinvestir sur les bâtiments prioritairement ceux qui vont être les plus... pour lesquels on va pouvoir retrouver une marge, donc des économies les plus importantes, bien sûr, qui seront favorisées. Et puis aussi, en matière de services publics, on a bien évidemment axé ou fléché sur nos écoles. Donc l'isolation de nos écoles André Fertré, Pape Carpentier et Descartes seront priorisées par rapport à ces économies d'énergie. Tenir notre feuille de route, je vous le disais, c'est aussi par rapport à des programmations, des grandes programmations qu'on avait avancées, c'est bien sûr garder comme en ligne de mire notre programme phare qui est Port-Luneau. Port-Luneau, qui, nous l'avons suffisamment décrit, se veut être une place hyper centrale en ville, qui revalorise le végétal, la présence de l'eau, l'histoire de ce lieu, hein, où la grande recrue est partie au XVIIe siècle et qui effectivement a été fait partie des sources historiques, du patrimoine historique de notre ville. Et les associations culturelles y sont très très attachées, les habitants aussi. C'est aussi recréer un lien entre cette place devant laquelle tout le monde passe, hein, pour pouvoir s'arrêter, et puis recréer un lien avec le centre-ville, le cœur de ville, pour pouvoir inciter les personnes qui s'y posent à pouvoir aller ensuite en ville, voir notre patrimoine urbain, et puis aller consommer auprès de nos commerces, nos restaurants, nos terrasses et nos boutiques. Donc ce sont des enjeux très importants, et c'est une image, une photo d'entrée de ville, d'entrée de centre-ville qui peut être très, très porteuse et très intéressante par rapport à l'image qualitative que l'on veut donner aussi à notre territoire.
Et là, il y avait aussi la population qui était amenée à se prononcer sur ce projet-là. Ça vous a conforté dans l'idée qu'il fallait aussi...
Les enjeux qu'on avait commencé un petit peu à repérer ont été totalement confortés par la concertation, effectivement, avec les habitants, dans le cadre de notre démocratie participative, puisque ce lieu renaturé, ce lieu d'apaisement, ce lieu de promenade, ce lieu où on se pose au bord de l'eau, est quelque chose qu'on a complètement, qui a complètement été réindiqué, en tout cas qui est ressorti de cette concertation avec les habitants. On a eu une très bonne participation des personnes qui étaient venues lors de l'exposition.
Un projet ambitieux, Nadine Grelet-Certenay, pour Port-Luneau. Et la question, à quand les premiers coups de pioche, à quand un début de travaux?
Alors, Port-Luneau, alors, effectivement, un projet très ambitieux, c'était un des projets phares, je le répète, qui a un coût, bien sûr. Et donc, je le disais, si nous maintenons le cap sur ce projet-là, bien sûr que nous allons devoir le faire en plusieurs phases, puisque nous n'avons pas, au vu des éléments que je vous indiquais précédemment, éléments budgétaires, nous n'aurons pas la possibilité de le porter aussi vite que nous l'avions souhaité. Donc on va commencer déjà par faire des réseaux en 2023, et c'est déjà pour pouvoir préparer le terrain, et puis on actera ensuite, et c'est quelque chose qu'on essaie d'affiner avec le cabinet qui a travaillé sur ce beau projet, qui avait été présenté lors d'une réunion publique d'ailleurs, on actera le phasage ensuite, hein, mais il y aura forcément, tout ne sera pas fait d'un seul coup, parce que on ne peut plus, on peut plus porter le coût de ce projet en une seule fois. Donc ce sera étalé, et on redonnera les éléments plus précis. Les autres projets importants qui étaient actés sur cette mandature et qu'on veut maintenir, mais là aussi, je vous le disais, ce seront sans doute des planifications qui seront un peu revues pour certaines, mais beaucoup sont déjà actées. Les demandes de subventions étant faites, les dotations étant demandées et les dossiers montés, bien sûr que ça nous a engagés, et donc nous allons aller au bout de notre vestiaire à la pépinière, des jeux extérieurs à l'île et Bulle, puisqu'il s'agit aussi de la communauté de communes, des jeux extérieurs à l'île et Bulle, de façon à faire revenir une population l'été sur ce site très, très ludique et très intéressant, site familial. Et puis l'autre gros projet, bien sûr, pour la communauté de communes, c'est la nouvelle déchetterie. Nouvelle déchetterie dont on espère une ouverture à la rentrée scolaire prochaine. On espère effectivement, en tout cas, ça fait partie de choix qui ont été actés par les élus, de déchetteries anciennement très vétustes, plus du tout aux normes, et donc recentraliser, faire des coûts, des économies ou de fonctionnement là encore derrière.
J'étais à Cromière dans le cadre des temps éducatifs périscolaires et puis le maire de la commune répondait à l'invitation des enfants et parmi les questions qui sont arrivées de la part des enfants, « Ah oui, pourquoi la déchetterie va fermer, monsieur le maire ?» etc. Donc vous voyez...
Ouais. Alors une grosse évaluation qui avait été faite, bien sûr, hein, des chiffrages avaient été faits concernant la réhabilitation des lieux, mais c'était des remises aux normes totalement inaccessibles et avec des coûts de fonctionnement qu'on a derrière qu'on ne pouvait pas véritablement réduire. Donc c'était important, et je le répète, hein, ça a été le choix de toute la majorité des élus, de recentraliser. Donc c'est intéressant parce que toutes les communes et tous les habitants de la communauté de communes vont se retrouver avec sur un service qui sera un petit peu plus central. Donc avec des coûts qui ont été recherchés, bien évidemment, des aides importantes de l'État pour la plupart, et puis de la région, du département quand c'est possible. Les autres projets, alors des grands projets phares comme ceci, mais aussi un autre axe de notre mandature, c'est bien sûr les énergies vertes. Donc, on le disait, pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre sur l'aspect budgétaire, il faut aussi qu'on investisse sur ces énergies vertes. Et donc, c'est ainsi qu'on a décidé qu'on mettrait des panneaux solaires sur la maison de santé. À la Flèche, qu'on mettrait des panneaux solaires sur le pôle petite enfance, et donc des ombrières à la Monnerie, sur les parkings, des lieux qui ont été travaillés avec la commission environnement et qui donc pourraient ramener, alors non seulement de l'ombre bien sûr, même si c'est toujours très agréable d'avoir des arbres, en tout cas les ombrières, les panneaux solaires et le photovoltaïque aussi sur l'ancienne déchetterie, la future ancienne déchetterie de Toré. toutes ces énergies vertes vont pouvoir, alors c'est un investissement, mais c'est aussi derrière des retours sur investissement pour la collectivité. Et donc, je le disais, pour pouvoir retrouver nos marges de manœuvre de façon plus importante. Sur les énergies vertes, nous avions d'ailleurs sur Toré, c'est à peu près par exemple 30 000 modules implantés sur 16 hectares de site, hein, et donc une évaluation dans un premier temps, alors qui reste à affiner aussi, mais qui pourrait être de 175 000 euros par an de retour pour la collectivité, puisqu'il y a de la location et des taxes, bien sûr. C'est d'ailleurs une belle reconnaissance qu'on a eue par rapport à ces investissements-là, s'agissant notamment de la biodiversité, où nombre d'actions vont être menées pour revégétaliser, pour ramener de la verdure, renaturer sur nombre d'endroits, des plantations d'arbres fruitiers, des sachets de graines aux habitants, des aménagements pédagogiques à la Monnerie, alors bien évidemment la gestion des marais de craie, GEMAPI, les programmes de lutte contre les inondations qui supposent et pour lesquels effectivement les habitants participent. Donc nous avons nombre d'actions, l'OPAERU aussi pour ne pas la nommer, qui nous permet de faciliter la rénovation de l'ancien dans le centre-ville, et puis bien sûr les aides aux façades et à l'embellissement des façades sur le centre-ville. Donc Toutes ces actions de renaturation ou de biodiversité nous ont permis d'obtenir le prix Thomas Joly de la biodiversité en 2022, et c'est une belle reconnaissance à ce niveau-là. Vous dire que, puisque nous parlons des labels et des prix, puisqu'on en a quand même un certain nombre de labels sur cette ville, et je ne sais pas s'il faut tous les nommer, mais en tout cas ils sont assez importants, sur cette liste de labels, nous avons... reçu en 2022, c'est un beau bilan également, les rubans du patrimoine, ruban du patrimoine au titre du prix spécial dynamisme territorial. Suite à la construction remarquable du cinéma en centre-ville et qui a pu contribuer, et ça se confirme encore aujourd'hui, une fréquentation du centre-ville assez marquée en lien avec ce nouvel équipement. Nous avons également eu, puisque je suis sur les labels, Ma ville, mon artisan. C'est une belle reconnaissance aussi pour les commerçants et les artisans, puisque nous avons, il a été décerné par la Chambre des métiers et de l'artisanat, ce label, en lien avec toutes les cellules commerciales qui ont pu s'implanter dans notre centre-ville, et donc toujours en faveur d'une économie de proximité, bien sûr. Et donc c'est une belle reconnaissance, là encore, de ce qui est mené conjointement par l'association les représentants des commerçants, et puis bien sûr par la mission économique. Alors bon, il y a aussi le label Territoire Internet, avec nos 5 arrobas, c'est le maximum donc qu'on a pu obtenir. Merci à la commission et à tous ceux qui ont pu y travailler. Le label Territoire Vélo, qui, même s'il reste à affiner, là encore, a continué à poursuivre. La ville de La Flèche est une ville pour le vélo. C'est une ville sur laquelle on a investi et sur laquelle on poursuivra, avec des aménagements qui se feront aussi au coup par coup et pas en une seule fois, bien sûr, mais on y est vigilant parce qu'on en est totalement convaincus. Et puis l'accueil vélo également au centre d'hébergement sportif qui se trouve à la Monnerie. Tout ça, ce sont des labels qui viennent acter les investissements passés et en cours.
Alors, allez-y, vous avez un autre label?
Alors non, pour les labels, c'est terminé.
Mais moi, j'avais autre chose à rajouter dans votre lot de labels. Bon, celui-ci n'en est pas vraiment un, mais quand on vous dit que La Flèche est la ville la plus accueillante des Pays de la Loire, selon Booking.com, je sais que vous avez appris cette bonne nouvelle il y a quelques jours.
Oui. Alors, ce fut une très belle surprise, même si on sait bien évidemment que et on l'entend de la part notamment des touristes, des nouveaux habitants, qu'il fait bon vivre à La Flèche, et même nombre d'habitants, anciens sur la ville nous le disent, qu'ils aiment cette ville et qu'il fait bon y vivre. Ça vient encore nous conforter dans l'idée que cette ville est une ville agréable. Et qu'il faut continuer ces investissements qui, certains nous le diront, ont un coût, mais qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Des ambitions, on en a eu, on en aura et on en a toujours pour nos habitants, pour ce territoire, pour qu'il se développe, pour qu'il grandisse et pour qu'il reste une ville, un territoire de vie où le vivre ensemble est effectivement important. On l'a un peu ressenti également au moment du Covid, bien sûr, où ces petites villes ont été ciblées par nombre d'habitants dans les grandes zones urbanistes et où ils recherchaient des petites villes à taille humaine, on l'a déjà dit, manifestement il y a eu un mouvement, je ne sais pas si ce sera conforté, mais en tout cas on a vu qu'on n'a plus de location, on n'a plus de d'immobilier en vente ou à louer, les agences et les notaires nous le disent, donc c'est aussi un gros programme derrière de d'hébergement et de logement qui se dessine, qui va bientôt voir le jour.
Alors Nadine Grelet-Certenay, maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes du Pays Fléchois, qu'est-ce que ça vous dit si je vous raconte un coup de fil d'une habitante du Sud-Sarthe, plutôt vers le sud-est de la Sarthe, qui me dit « Ah ben tiens, j'ai fait un tour du côté de La Flèche pour raison médicale, et puis elle en a profité pour faire un petit tour, La Flèche, intramuros, et puis aussi les alentours, et commentaire ». Ah, je ne savais pas que ça avait beaucoup bougé de cette façon-là.
J'ai eu un témoignage en ce sens-là. Et donc, effectivement, ça
veut
dire...
Qu'est-ce que ça vous donne comme responsabilité pour la suite?
C'est la consigne qu'on a passée aux équipes, et notamment, toutes. C'est pas par hasard si on a recréé et on a notre organisation interne au niveau de la collectivité, ville et communauté de communes, et où on a un pôle attractivité marketing et autres qui s'est dégagé, sur développement économique et autres, qui s'est dégagé sur notre réorganisation. Parce que, vous le dites, nous savons ce qui se passe. Nous savons les changements, les modifications, l'évolution de cette ville. Pour autant, les nouveaux habitants, les touristes, en tout cas les nouveaux habitants sur le territoire, ne savent, même ceux qui sont beaucoup plus extérieurs, ne savent pas ce qui s'y passe, ne connaissent pas les atouts de cette ville. Et c'est quand ils y arrivent qu'ils le découvrent. Donc ça veut dire qu'on a un gros travail à faire. Maintenant il y a eu ce savoir-faire, et nous avons ce savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. C'est-à-dire que nous avons à communiquer au maximum et beaucoup plus. C'est d'ailleurs des axes de travail que nous avons donné aux différentes équipes, notamment la mission économique, pour aller rechercher les développeurs, les porteurs de projets, et puis de nouveaux habitants, sur la ville de La Flèche. C'est sans doute aussi par rapport aux ambitions dont je parlais qu'on a quand même pu aussi avoir comme indication très récemment que la ville de La Flèche avait gagné en population, contrairement à beaucoup d'autres secteurs. Donc, ces populations, maintenant, il faut qu'on les serve en matière de services publics, en matière d'équipement, et qu'on arrive aussi à fidéliser toutes ces personnes qui arrivent de l'extérieur. Je parle des entreprises, je parle des cadres, je parle des médecins, puisque vous parlez de la problématique santé. Et donc, comment la ville, la collectivité peut-elle retenir, attirer, aller chercher ses compétences? C'est en faisant de la communication, en allant les chercher, en faisant du réseau. Nos services et la mission économique, entre autres, mais pas que, travaillent avec dans un réseau multipartenarial. Sur le monde dans l'entreprise, sur les industries, sur l'économie de manière générale, sur l'emploi, en lien avec les établissements scolaires d'ailleurs et autres, en lien avec le département, la région et l'État, sur toutes ces actions qui sont à mener pour faire savoir ce qui se passe ici. Et c'est sans doute d'ailleurs par rapport à ce qu'on a pu enclencher qu'on a constaté que dans les différents porteurs de projets investisseurs, là récemment, c'est 33% de porteurs de projets qui arrivent de l'extérieur, qui viennent s'implanter sur La Flèche. Donc, je vous le disais, retenir, fidéliser ces personnes-là, c'est nous, collectivités, notre grande responsabilité, c'est de travailler sur cette attractivité, sur cette qualité de vie. Et les investisseurs savent bien nous le dire. Il nous le confirme aussi qu'il fait bon rester à La Flèche. Donc, c'est un travail de longue haleine. Qui ne se fera pas en un jour, mais en tout cas, on commence à en voir les fruits, et on désespère pas que ces graines qui sont plantées et qui commencent à donner des pousses vont pouvoir aussi, bien évidemment, se multiplier, bien sûr. Et donc, c'est quand je dis c'est des atouts, c'est dans tous les domaines. Hein, ce bien vivre, c'est, je le disais, les équipements, etc. Mais je voulais aussi revenir sur justement l'aspect mobilité, puisque ça fait partie de notre bilan 2022 également. Nous avons pu, avec bonheur, inaugurer la voie verte de Bazouges-La Flèche. Nous avons inauguré, toujours en termes de mobilité, deux abris vélos. Sécurisés. Nous avons bientôt, nous allons ouvrir aussi le chantier du rond-point des médaillés militaires pour sécuriser là aussi la cohabitation piéton, vélo, automobile. Un gros chantier sur la communauté de communes qui avait été pointé par le CEREMA, un cabinet d'études spécialisé, comme étant le nœud à privilégier sur cet axe-là. Donc, c'est tout le travail que la collectivité doit mener pour, je le disais, faire connaître cette qualité de vie. Et c'est d'ailleurs sans doute pas un hasard non plus, mais en lien aussi avec l'action Cœur de Ville, qui a permis à des investisseurs, je parlais du logement et de l'hébergement tout à l'heure, à des investisseurs privés de venir taper à notre porte, aux portes des petites villes comme la nôtre, pour pouvoir investir également. Et donc, c'est avec un grand bonheur que nous allons pouvoir avoir une résidence senior et des logements à l'îlot des Capucins, sur la rue Henri Dunant. Et donc en face aussi, Histoire et patrimoine, qui vient nous réinvestir sur l'ancien hôpital, qui se dégradait depuis un nombre important d'années, hein, effectivement, et pour lequel la collectivité en tant que telle n'avait pas les moyens de pouvoir tout restaurer. Ce sont des coûts faramineux, et donc c'est avec un pur enchantement que nous avons pu voir avec eux le projet qui conservera en l'état, et on a beaucoup travaillé avec l'association, bien sûr, qui s'occupait de ce lieu et des personnes qui visitaient ce lieu pour l'avoir bien connu sur l'aspect professionnel, puisque ce sont souvent des anciennes infirmières. Et donc, cette Histoire et patrimoine va pouvoir recréer des logements de qualité sur un site remarquable, tout en conservant le patrimoine tel qu'il était, et même le réhabiliter par rapport à la première architecture qui a été de ce lieu. Le cloître sera conservé, le bâtiment sera tout à fait respecté dans sa forme, dans ses ouvertures, etc. De toute façon, étant un patrimoine classé, nous sommes obligés de passer par l'architecte des bâtiments de France, et donc ça suppose des contraintes bien évidemment importantes. Donc le logement, l'hébergement, c'est aussi des investissements par des sociétés publiques que sont aussi Sart Habitat. Et donc, on a La Touche, Gallieni, Chambaudry, Gravaux, Printania, qui vont, pour certaines, commencer dès cette année, et puis d'autres qui vont sortir d'ici la fin du mandat, ou en tout cas d'ici 3-4 ans pour les plus éloignés. Et donc, on travaille de concert avec les bailleurs sociaux pour pouvoir poursuivre aussi cette offre de logement, ce qui permet d'avoir une offre de logement assez diversifiée, finalement, s'agissant de logements de haute qualité, à des logements accessibles pour la population moyenne.
On va bientôt terminer. Alors, je vois que vous regardez vos petites notes, Nadine Grelet-Certenay. Est-ce qu'il y a un aspect...
Parce que j'ai peur d'en oublier. Hein.
J'imagine. Mais bon, c'est la première interview, la première grande émission de l'année. Il y en aura d'autres. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez revenir avant qu'on termine cette émission ?
Juste redire que nous avons aussi, en termes d'investissement, des bâtiments blancs qui vont continuer à être construits. Pour continuer, là aussi, on a vu des entreprises s'installer, des entreprises avec un nombre d'emplois important à la clé, hein, s'agissant notamment de Mérieux et de Noras, et il y en a d'autres qui viennent chez nous. Cette vitalité, on l'a observée notamment au travers de la fréquentation touristique de cette année. 2022 fut un très bon cru, au sortir du Covid sans doute. Et donc on a une fréquentation très très intéressante qu'on n'avait pas vue depuis un bon nombre d'années. Et puis peut-être dire que on le sait, on en parlait tout à l'heure, la santé reste un domaine très sensible, un domaine important pour nombre de Fléchois et de personnes de la nouvelle population qui vient s'installer sur le territoire. Ça fait partie des enjeux sur lesquels on travaille là encore de très régulièrement. On vient, ça y est, de recruter un chargé de mission de santé qui va poser un diagnostic, mais surtout aussi promouvoir ce territoire, dégager des pistes de travail peut-être un peu plus concrètes encore entre les professionnels, avec les professionnels de santé, et puis rechercher aussi des aides à l'investissement, puisqu'il s'agit bien sûr de pouvoir développer les maisons de santé telles qu'elles sont. La maison de santé de la Flèche est pleine. Les annexes à cette maison de santé que sont la chapelle, que sont la maison de santé de Vilaine-sur-Malicorne, qu'on a pu inaugurer en 2022 aussi, et puis Bazouges sont pleines. On va poursuivre. Bazouges, il reste encore une salle sur laquelle on travaille pour pouvoir aller chercher des médecins. Mais en tout cas, quand je disais tout à l'heure l'attractivité pour aller chercher nos cartes, etc., cette qualité de vie et ces services, c'est aussi ces professionnels-là qu'on essaie de capter. Donc, un travail conséquent est mené en concertation avec eux, en concertation avec l'agence régionale de la santé, voire même l'agence départementale de la santé, pour pouvoir acter nos projets de développement. Donc, ça va être aussi, dans les années qui viennent, quelque chose sur lequel on va bien sûr forcer le trait.
Eh bien, ce trait, on va le poursuivre avec vous pour l'esquisser encore plus dans la durée tout au long de cette année, puisqu'on vous réinvitera, Nadine Grelet-Certenay, maire de La Flèche et présidente de la communauté de communes du pays fléchois. Merci d'avoir accepté de venir parler aux auditeurs et d'avoir fait le bilan de 2022 et puis aussi de tracer voilà, ce sillon-là pour l'espoir, on le disait, un horizon qui est certes bouché par les nouvelles qu'on a venant aux portes de l'Europe, la guerre, l'inflation et ça, mais vous vous dites voilà, qu'il y a un chemin aussi par lequel on peut passer malgré les difficultés.
Nous n'avons pas le choix que de rester positif. Et d'ailleurs, je salue au passage, je l'ai oublié tout à l'heure, le panneau Son d'or là, qui a été remis aux associations des commerçants. Et voilà, en tout cas, restons positifs, restons dynamiques. Et c'est bien évidemment avec toutes ces associations, tous les Fléchois et toutes les personnes qui veulent bien investir sur ce territoire que nous composerons.
Restons positifs, restons dynamiques. Ce sera le titre du podcast de cet entretien à retrouver sur radioprévert.fr sur Internet. Merci beaucoup Nadine Grelet-Certenay.
Merci, à bientôt.
À bientôt, à la maire de La Flèche et à la présidente de la communauté de communes du pays fléchois.